Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un tueur à gages de 14 ans face à la justice, jugé pour avoir abattu un chauffeur VTC à Marseille en 2024, un adolescent recruté sur Internet par le crime organisé. Le Royaume-Uni, secoué par l'affaire Epstein, fragilisé par la démission de deux proches collaborateurs et poussé vers la sortie, le Premier ministre Keir Starmer refuse pour l'heure de quitter son poste. Et ce n'est pas la sortie dont je rêvais. Les nouvelles de Lindsey Vonn ce matin. Elle réagit sur les réseaux sociaux. La skieuse américaine, victime d'une fracture du tibia au jeu de Milan, Cortina, ne regrette rien.
Le procès d'un très jeune tueur à gages.
14 ans au moment des faits. C'est donc ce jeune garçon qui va comparaître ce matin à huis clos devant un tribunal pour enfants, jugé à Paris pour homicide volontaire en bande organisée, soupçonné d'avoir tué à bout portant en octobre 2024 à Marseille un chauffeur VTC, un père de famille qui n'était pourtant pas la cible de l'adolescent recruté sur les réseaux sociaux par le crime organisé. Guillaume Bier.
Oui, il fait partie de ces quelques ados à peine sortis de l'enfance et qui se sont improvisés tueurs à gages pour le compte de grands réseaux de trafiquants. Un jeune garçon placé en foyer dès l'âge de 9 ans parce que ses parents, trafiquants présumés, étaient incarcérés. Depuis le Gard, c'est en répondant à une annonce sur Snapchat qu'il a été recruté pour commettre un assassinat. 50 000 euros pour exécuter un rival de la DZ Mafia ayant tué un autre ado de 15 ans. Mais cette nuit-là, rien ne s'est passé comme prévu. Une altercation dans le VTC qui le conduit vers sa cible et l'apprenti tueur tire une balle de 357 Magnum dans la tête du chauffeur, un père de famille de 36 ans. Un drame qui pousse carrément le commanditaire depuis sa cellule de prison à dénoncer l'adolescent à la police. Lors de ce procès, il risque jusqu'à 20 ans de réclusion.
Et ne manquez pas, dans le journal de 8h, le témoignage de la veuve du chauffeur VTC tué par l'adolescent.
Et puis j'attends vos témoignages. Appelez-nous au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Cette question de l'hyperviolence des jeunes, explosion de l'ultraviolence, c'est l'expression du ministre de l'Éducation hier. Banalisation de la violence, voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Et vous, est-ce que vous constatez une banalisation ou une ultraviolence chez les jeunes? Je vous attends.
18 mois de prison avec sursis requis en appel contre l'enseignante soupçonnée d'avoir harcelé et humilié la jeune Evaël, 11 ans. Elle s'était donné la mort en 2019, place aux plaidoiries de la défense aujourd'hui. Retour maintenant sur cette histoire glaçante en Gironde. Ce photographe placé en détention provisoire pour détention d'images pédopornographiques. Nous vous en parlions en novembre dernier. Il est soupçonné d'avoir détourné des clichés d'enfants pris dans son studio, de les avoir déshabillés à l'aide de l'intelligence artificielle dans cette affaire. Et c'est une information RMC, on apprend qu'un collectif, 300 personnes proches de ces enfants, réclament plus de transparence, des parents notamment appelés à se signaler. Ils l'ont fait, mais depuis rien pour ces familles. L'attente est interminable. Pierre Bourgès.
Laurent s'est bien manifesté aux enquêteurs, mais depuis 2 mois, il ne sait toujours pas si des photos artificiellement dénudées de ses deux filles de 1 et 5 ans circulent sur Internet.
Je sais pas où ça en est. Ça me tracasse un peu. On voit une psy avec ma femme pour en parler un petit peu, pour essayer d'évacuer, parce que c'est très dur. Très, très, très dur.
Cette angoisse est partagée par de nombreux parents qui se sont constitués en collectif et qui ont décidé d'écrire au procureur.
Monsieur le procureur de la République, ce silence prolongé plonge de nombreux parents dans une profonde inquiétude.
Les deux filles de Karine sont aussi des victimes présumées.
Ils n'ont peut-être pas encore toutes les informations et ils peuvent peut-être pas en dire grand-chose. Après, effectivement, on a l'impression d'être là sur le bord de la route et d'attendre que quelqu'un veuille bien nous dire quelque chose.
Alors 2 mois après l'arrestation du photographe, le collectif espère une réponse à l'image de cette maman d'une fille de quelques mois, elle aussi concernée.
La réponse que j'aimerais avoir, c'est surtout savoir en fait que ça avance, pas de se dire on sait pas, est-ce que là pour le moment c'est en pause, est-ce qu'ils attendent quelque chose. Cette attente en fait, elle est interminable et c'est terrible.
Lors de la saisie du matériel du photographe, les enquêteurs avaient retrouvé des milliers de fichiers pédopornographiques.
Un reportage de Pierre Bourgès, correspondant à RMC à Bordeaux.
7h04 sur RMC, le Royaume-Uni secoué par l'affaire Epstein.
À tel point que le roi se retrouve dans l'obligation de réagir. Charles III sort de sa réserve et se dit prêt à aider la police, préoccupé par l'apparition du nom de son frère, Andrew, déjà destitué de son titre princier dans les derniers documents révélés par cette affaire qui secoue aussi Downing Street. Laura Calmus, vous êtes la correspondante RMC à Londres. L'étau se resserre autour du Premier ministre Keir Starmer, acculé de toutes parts, poussé à la démission.
Oui, en moins de 24 heures, le Premier ministre britannique a perdu deux proches collaborateurs. D'abord son chef de cabinet, Morgan McSweeney, puis son directeur de la communication, Tim Allen. Deux départs, directement de près ou de loin, liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis, malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein. Alors pour la première fois, il y a aussi un poids lourd du Labour, le chef du Parti travailliste écossais, Anna Starwar, qui appelle Keir Starmer à démissionner. Mais le Premier ministre s'accroche. Il a d'abord réuni ses ministres, puis les députés travaillistes à huis clos et a répété qu'il ne partirait pas. L'ensemble de son gouvernement a quant à lui publiquement apporté son soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Keir Starmer qui obtient donc un sursis, mais la crise politique est loin d'être terminée à quelques semaines d'échéances électorales sensibles pour le Labour.
Et juste après ce journal, le récit des toutes dernières révélations sur cette affaire tentaculaire, l'affaire Epstein. 7h06, une femme à la tête de la Cour des comptes.
Et c'est une première. Amélie de Montchalin va succéder à Pierre Moscovici. La nomination de l'actuel ministre des Comptes publics par Emmanuel Macron sera officialisée demain en Conseil des ministres. Une macroniste de la première heure propulsée à l'un des postes les plus prestigieux de la Ve République, grâce notamment, Thomas Becker, à sa gestion du tumulte budgétaire.
Oui, ces dernières semaines, elle se retrouvait souvent seule sur le banc des ministres à défendre le gouvernement. Elle est très bonne sur le fond, reconnaît un député socialiste. Même les élus du RN l'épargnent. Pédagogue, mais aussi piquante, par exemple dans ses réponses aux sénateurs quand il reproche aux macronistes l'explosion du déficit. Formée à HEC, elle entre en politique en 2017 pour Emmanuel Macron. En 2022, elle perd son siège de député. À l'époque, le président lui offre une porte de sortie avec un poste de diplomate économique. Cette fois, alors qu'elle fait partie des piliers du gouvernement, Le Cornu, le chef de l'État lui confie à 40 ans un des postes les plus prestigieux de la République, un mandat irrévocable jusqu'à ses 68 ans. Le député LFI Éric Coquerel demande au président de revenir sur cette nomination qui pour lui ne remplit pas les conditions de neutralité et d'indépendance requises par cette fonction.
Thomas Becker, service politique RMC. Le début de 3 jours de grève chez Ubisoft en France mais aussi à l'étranger. Les salariés du groupe géant du jeu vidéo empêtrés dans les difficultés financières dénoncent des conditions de travail dégradées et un nouveau plan d'économie.
Pas de médaille pour les Bleus hier aux Jeux de Milan Cortina.
On retiendra tout de même la belle performance des danseurs sur glace. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, premiers sur l'épreuve de danse rythmique avant le programme de danse libre demain. On espère que la journée qui s'ouvre sera prolifique avec une première chance de médaille dès le début de l'après-midi en biathlon. Éric Perrault, sacré champion olympique dimanche sur le relais mixte, va prendre le départ du 20 km. À suivre également Jules Chappaz au départ de la finale du sprint en ski de fond et le début des épreuves de ski de bosse pour Perrine Laffont. Pour ne rien manquer, restez sur RMC, radio officielle des Jeux de Milan Cortina. Des jeux qui sont terminés désormais pour Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche. Après seulement 13 secondes de descente, la skieuse américaine a été hospitalisée en soins intensifs. Et elle est sortie du silence hier soir, Léna Marjac, elle ne regrette rien.
Mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'imaginais. C'est par ces mots que Lindsey Vonn donne de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Dimanche, lors de la descente olympique, l'américaine de 41 ans, déjà diminuée par une rupture du ligament croisé du genou gauche, chute lourdement après avoir accroché une porte. Vonn, championne olympique de descente en 2010, souffre d'une fracture du tibia. Après avoir déjà été opérée à 2 reprises, l'américaine confie devoir subir d'autres interventions chirurgicales. Son choix de prendre le départ, Lindsey Vonn ne le regrette aucune. J'ai essayé, j'ai rêvé, j'ai sauté. La vie est trop courte pour ne pas tenter sa chance. Lindsey Vonn espère que sa résilience et son courage marqueront les futures générations. Croyez en vous comme vous avez cru en moi, conclut l'américaine.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 et il y a Jérôme qui nous appelle au 32-16 de Libourne. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour à vous.
Jérôme, soyez le bienvenu ce matin. Vous nous appelez pour réagir. Cet homme de 70 ans qui est en garde à vue donc à Genas, au sud-est de Lyon. Il est accusé d'avoir tué un homme de 19 ans dans la nuit de dimanche à lundi, qu'il soupçonnait d'être un cambrioleur. Comment vous réagissez, Jérôme ?
Eh ben, moi je prends mon exemple, je suis chef de chantier dans les travaux publics. Ouais. Et en fait, nous on a des problèmes de vol de matériaux sur nos chantiers quasiment toutes les semaines, et on a toutes les possibilités pour protéger notre chantier, mais au bout d'un moment, on a même des gens qui pénètrent dans l'enceinte et qui pourraient faire effectivement très très mal avec les engins et avec tout ce qui peut tourner. Si on décide de se comporter comme Charles Bronson sur site, c'est nous qui finissons en prison. Donc la question, elle est très très simple, c'est que on est champion d'Europe des vols de voitures, on a des quotidiennement des
toutes activités. Toutes les 4 minutes, hein, vous l'avez entendu.
Ben, voilà, on a une actualité qui est anxiogène au possible. possible avec des cambriolages, avec des kidnappings, avec des images d'attentats ou de vols de bijouterie. Et on est en train de nous expliquer qu'il ne faudrait pas se comporter comme Charles Bronson. Moi, je pose une question très très simple. Hein. Si quelqu'un pénètre dans mon habitation et qui kidnappe ou qui séquestre ma femme ou mes enfants, je pense sincèrement que je vais pas avoir la patience de dire pauvres gens, mon Dieu, je connais votre situation familiale et je sais que c'est problématique. Non,
la question, c'est évidemment la réponse proportionnée. C'est là-dessus qu'on est régulièrement jugé et que c'est ce qui justifie que cet homme va se retrouver en garde à vue.
Mais
en même temps, j'entends bien depuis ce matin, d'ailleurs, vous êtes nombreux à témoigner, hein, j'ai entendu aussi chez Mathieu et Pascal tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'éternelle difficulté et on entend même certains magistrats eux-mêmes reconnaître que la lenteur de la justice, la difficulté ensuite à ce que ça aboutisse, donne parfois le sentiment chez un certain nombre de citoyens de se dire, bah, au fond, je pourrais être tenté de me faire justice moi-même.
Ben, disons que je pense que si moi je suis cinéphile, si on arrête n'importe quelle personne dans la rue en France et qu'on leur demande leur film préféré, il y a énormément de personnes qui vont répondre Le Vieux Fusil, à juste titre. Hein. La comparaison peut être vraiment vraiment extrême dans le sens où ce sont des nazis qui pénètrent l'habitation de Philippe Noiret. Mais c'est curieux quand même que ce film résonne énormément dans la mémoire collective, tout comme Death Wish avec Charles Bronson. Je ne veux pas de
vous
ça.
Voulez...
Je ne veux pas
Alors
de
moi
ça.
Je veux bien d'une chronique ciné avec vous, Jérôme. Je sens que vous en avez sous le pied là. Honnêtement, on voit que vous pourriez tenir une chronique cinéma. Je le garde dans un coin de ma tête. Sur le fond, évidemment, ça fait réagir beaucoup ce matin et vous êtes nombreux comme Jérôme à réagir. Comment faut-il justement faire lorsque vous vous retrouvez potentiellement nez à nez avec un voleur? On n'a pas encore évidemment tous les détails sur ce qui s'est passé. La scène, elle s'est déroulée à 3h du matin, donc dans le sud-est de Lyon. Promis, on vous donne tous les éléments ce matin dans la matinale. Merci Jérôme d'avoir appelé. Il est 7h12 et sur RMC, on va revenir dans un instant.
Apolline Matin.
On va revenir sur ce roi d'Angleterre qui est désormais au cœur de la pression Epstein, chahuté hier lors d'un déplacement. Le Premier ministre britannique également sous pression. Ses soutiens qui lui demandent même de démissionner. L'affaire Epstein secoue le Royaume-Uni. Anne-Elisabeth Moutet est en direct avec nous dans un instant. Journaliste, éditorialiste au Daily Telegraph, un grand journal londonien. Une affaire qui est en train de devenir mondiale. Les répercussions, c'est le parti pris donc d'Anne-Elisabeth Moutet dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Écoutez, c'était hier dans le nord de l'Angleterre.
Charles, depuis combien de temps étiez-vous au courant pour Andrew et Epstein ?
Le roi Charles, chahuté lors d'un déplacement, interpellé par des manifestants à propos de son frère Andrew, mis en cause dans l'affaire Epstein. Bonjour Anne-Elisabeth Moutet, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste au Daily Telegraph. Votre parti pris ce matin, c'est que cette affaire, elle est en train de toucher le monde entier. Mais d'abord, la pression immédiate, elle est désormais sur le roi et sur le Premier ministre. Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi le Royaume-Uni en particulier?
Alors, il y a plusieurs raisons et c'est la nature du scandale qui est assez différente de la nature du scandale en France. En France, vous avez toute une série de gens qui fréquentent Epstein, qui lui demandent des avantages, des faveurs, de l'argent, etc. En Grande-Bretagne, il y a aussi ça, évidemment, mais il y a surtout en plus un ancien ministre qui a été nommé, malgré les inquiétudes d'un certain nombre de membres du Parti travailliste, par Keir Starmer, ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. Et la raison pour laquelle il est nommé ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, c'est que tout le monde lui dit il a beaucoup de réseaux, il connaît tout le monde, c'est le seul qui pourra s'entendre avec Trump, il nous faut vraiment quelqu'un d'une pointure. Et donc on ramène Peter Mandelson, qui est quelqu'un qui a déjà tout de même été obligé de quitter le gouvernement britannique deux fois dans sa vie, toujours pour des indélicatesses. Alors ça, c'est un problème.
Arrêtons-nous déjà un instant là-dessus avant de parler du roi et du Premier ministre, parce qu'au fond, finalement, c'est le même fil qu'on tire. Peter Mandelson dont vous parlez, il est avéré désormais qu'il a été très proche de Jeffrey Epstein. Il y a des photos, pardon de l'expression, mais de Peter Mandelson en slip dans le salon de Jeffrey Epstein avec éventuellement une jeune femme. Il y a effectivement des liens d'argent. Il y a peut-être même eu des informations confidentielles qui auraient été données par Peter Mandelson, proche, donc on le dit, de Keir Starmer, Premier ministre, à Jeffrey Epstein?
Alors, oui, ça, tout c'est se la mélange. Chose la plus... C'est la chose la plus importante. Alors, on va d'abord dire que pourquoi est-ce qu'il est en maillot de bain avec Jeffrey Epstein ? C'est parce qu'il est dans l'île des îles Vierges de Jeffrey Epstein, qu'il y a une piscine à côté, que c'est une maison de vacances luxueuse, que tout le monde est très content d'être invité dans ce truc qui est comme un hôtel de luxe, et que lui, Peter Mandelson, il est là avec son mari. Donc, les jeunes femmes, elles sont dans le paysage. Ça vous explique plutôt comment était l'atmosphère sur l'île, mais ça nous dit rien dans ce cas spécifique sur Peter Mandelson. Mais en revanche, ce qu'on sait effectivement, c'est qu'il a demandé que Jeffrey Epstein lui envoie de l'argent pour son mari. Il a fait une espèce de toute une série d'enfin entre 30 et 50 000 livres au mari de Peter Mandelson. Et puis, la chose la plus grave, c'est deux choses. D'une part, des délits d'initié, c'est-à-dire que Peter Mandelson est membre du gouvernement et il envoie à Epstein et ou à des banquiers américains directement des décisions qui vont être prises le lendemain, par exemple, qui vont avoir une grosse influence sur les marchés, des décisions économiques prises par le gouvernement britannique. Alors ça, c'est de la trahison, carrément, puisque c'est un agent de l'étranger, il est certainement américain, il est peut-être un agent russe, on ne sait pas. Donc ça, déjà, c'est un truc énorme. Et puis, on retrouve donc dans cette espèce de gigantesque déballage d'emails et de messages, que quand Peter Mandelson, des années plus tôt, était dans le gouvernement britannique, et que c'était la fin de la période Tony Blair, la personne qui devait succéder à Tony Blair, c'était Gordon Brown, qui était le ministre de l'économie, il y avait un accord entre eux, et il y a toute une intrigue où, littéralement, Epstein donne des conseils à Mandelson pour comment dégommer Gordon Brown, que Mandelson, qui est un homme de Blair, déteste. Comme
et on sent, et on sent effectivement que cette personne effectivement est une personne clé. Ensuite, il y a Keir Starmer qui, du coup, se retrouve menacé. Et puis, désormais, le roi lui-même, qui est habituellement un roi plutôt aimé, qui se retrouve chahuté, à qui on demande des comptes désormais lorsqu'il se rend dans la rue.
Alors, il faut savoir quelle rue c'est. On est dans une ville du nord de l'Angleterre. Vous vous souvenez sûrement de l'immense scandale qui a frappé plutôt les endroits pauvres et au chômage du nord de l'Angleterre. Et qui est ce scandale de 20 ans dans plusieurs dizaines de villes d'un gang de Pakistanais qui enlève des petites jeunes filles et des petites filles et qui les dresse comme des animaux à faire des trucs sexuels absolument répugnants. Et chaque fois qu'ils vont se plaindre, on leur dit « vous êtes des sales racistes ». Et dans cette rue-là, ça allait arriver un jour. Vous voyez d'ailleurs sur le visage des gens qui entourent le roi, je veux dire par là la foule qui est venue le voir, qui disent « enfin, pourquoi est-ce qu'on nous dérange ?» Enfin, on voit le roi, on n'a pas du tout envie que quelqu'un fasse le bordel. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un ressentiment terrifiant parce que, une fois de plus, c'est une population qui se sent abandonnée et qui dit « voyez un exemple de plus, qu'il se passe des choses inavouables et qu'on nous le cache ».
Des choses inavouables, immondes, qui effectivement font écho, comme vous le dites, avec cet abominable trafic et ces gens, ces victimes, ces jeunes victimes qui n'ont pas eu droit au chapitre. Et pendant des années, c'est aussi la part du scandale. C'est non seulement ce qui s'est passé, mais le fait que la police n'ait pas voulu entendre effectivement que ce trafic avait lieu. Tout cela, évidemment, concourt à une colère immense. C'est ce que vous nous racontez ce matin, à la fois contre le gouvernement, mais aussi contre le roi à suivre. Donc, mais on voulait vraiment comprendre qui se jouait en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet, donc journaliste et éditorialiste au Daily Telegraph. Il est 7h21 sur RMC et Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Il y a une montée de violence chez les jeunes, c'est ce qu'assure le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Même si on parle beaucoup ces derniers temps de l'ultra-violence qui serait récente, c'est pas non plus tout à fait nouveau, Arthur.
Eh mais non Apolline, la violence des jeunes, on en parle depuis plus d'un siècle. Et à l'époque, des bandes de jeunes s'attaquaient même déjà aux pompiers, figurez-vous.
Vous allez nous raconter l'épisode des Apaches, comme on les appelait. Arnaud Demange arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et comme chaque matin, on va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, hier à mon micro, le ministre de l'Intérieur pointait une montée de la violence chez les jeunes parfois très jeunes. Laurent Nunez a même appelé à un choc d'autorité.
Oui, avec un chiffre glaçant à l'appui, hein, entre mars et décembre 2025, 525 élèves ont été contrôlés avec un couteau devant un établissement scolaire. Mais malgré ça, le ministre refuse d'employer le terme d'ensauvagement. Il préfère parler d'hyper-violence.
La violence chez les jeunes, est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes?
Ah bah non, la violence chez les jeunes, c'est un grand classique. Apolline, il y a plus d'un siècle, la violence des jeunes, ça faisait déjà les gros titres. Hein. Dans les années 1900, ça devient même un phénomène de société. La presse et les hommes politiques ne parlaient que de ça. Des bandes de jeunes traînaient dans les rues des villes et terrorisaient la bonne société. On va même leur trouver un surnom à ces jeunes voyous. On les appelle les Apaches.
Pourquoi les Apaches?
Alors c'est une référence à la tribu indienne du même nom hein, et au cliché sur les Indiens d'Amérique. Évidemment, les Indiens c'était des sauvages, des hors-la-loi, des bandits et donc les nouveaux Apaches, ce sont ces jeunes qui passaient leur temps au bistrot et qui vivaient de délits plus ou moins graves. Hein. Ça pouvait aller du vol au braquage, en passant par les règlements de compte entre bandes rivales. Mais il y avait aussi des crimes. Mais ces jeunes avaient aussi du style, hein, avec un look très reconnaissable dans les rues de Paris, une raie sur le côté, des pantalons larges, un foulard rouge, une casquette. Mais le plus important chez les Apaches, Apolline, c'est d'avoir des chaussures impeccablement cirées. Bref, c'était des dandys du crime.
Est-ce qu'ils avaient des armes?
Oui, et là encore, c'est assez codifié. Hein. Un Apache devait toujours avoir un couteau à cran sur lui, c'était l'arme de base, mais aussi un revolver, et ils n'hésitaient pas à s'en servir.
Y compris contre les pompiers. Hein.
Absolument. En 1907, une usine prend feu dans le quartier de Clignancourt à Paris. Les pompiers, évidemment, viennent éteindre l'incendie. Et là, les Apaches s'en prennent physiquement aux pompiers. Ils vont d'ailleurs jusqu'à crever les tuyaux des pompes pour éteindre l'incendie avec leur fameux couteau à cran d'arrêt. Quand l'État mettait un pied sur leur territoire, les Apaches réagissaient immédiatement. Police ou pompiers, ils attaquaient.
Est-ce qu'ils avaient des revendications politiques?
Oui. La première, c'est qu'ils ne voulaient pas travailler. Ça, c'était le premier truc. Surtout pas dans les usines. À l'époque, quand vous étiez pauvre, vous étiez destiné à être ouvrier. Les Apaches, souvent d'origine modeste, refusaient donc cette vie de prolétaire, qui quitte d'ailleurs à devenir criminel. Politiquement, la violence des jeunes, c'était donc déjà un sujet, et ça continuera. Hein. On leur trouvera d'autres surnoms, et même très récemment, en 1999, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur socialiste, emploiera le terme de sauvageon pour qualifier les jeunes délinquants. Plus tard, Nicolas Sarkozy, lui aussi, ministre de l'Intérieur, parlera de racaille.
Merci Arthur Chevalier. 7h25, si vous voulez réécouter d'ailleurs la chronique d'Arthur Chevalier, direction... Comme toujours, le podcast sur l'application ou le site rmc.fr. Notez qu'à 8h30, ce sera la procureure de la République du parquet national anticriminalité organisée. Vanessa Perret, ne le manquez pas, ça va être absolument passionnant. Et justement, parlant du face-à-face, Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Ça va les sauvageons, ça va les racailles, ça va? Alors oui, donc Vanessa.
Pardon, c'est pas reconnu.
Non, mais je sais. Pas reconnu, on savait pas qui vous parliez.
Mais non, mais je rebondis sur ça.
Bien sûr.
J'essaie de créer du lien. On est une grande famille.
On est pour le bien, on est pour les gens.
Du lien. Bon, je vois que tous dans vos yeux, il y a marqué les blagues sur Morandini. Les blagues sur Morandini. C'est tout à l'heure, c'est à 8h15.
Oh non.
Là, c'est une chronique sur la procureure Vanessa Perret. C'est du sérieux. C'est du sérieux, c'est Madame Perret, c'est la femme de Pierre Perret. Non, en vrai, c'est la fille de Pierre Perret. Je l'ai rencontrée chez Woody Allen.
Non,
en vrai, elle n'a rien à voir avec Pierre Perret. En tout cas, vous saurez tout sur le nouveau parquet national anticriminalité organisé, le PNACO, qui n'a rien à voir avec Sarah PNACO, pour le coup, et dont Vanessa Perret est en charge. Elle est en charge de nombreuses affaires, par exemple, liées à des rapts dans la crypto. Les kidnappeurs s'en prennent à la famille des investisseurs crypto, donc la terreur maintenant des parents, c'est d'entendre « Papa, maman, j'ai une bonne nouvelle, j'ai fait fortune dans la crypto !»
Petit con, tu veux notre mort? T'aurais pas pu faire du porno comme ta sœur? Elle a ouvert un OnlyFans, elle gagne 80 balles par mois, il y a Gérard Miller qui la suit, c'est très sympa, on risque rien, c'est plus cool. N'empêche que c'est courageux ce qu'elle fait comme métier, Vanessa Perret. Procureur anti-crime organisé. Son ennemi, c'est la DZ Mafia, quoi. Son arme, c'est un PC sous Windows 95 et deux greffières à mi-temps. Et que... sur la panique, l'imprimante, elle marche plus. C'est ça son cri de guerre contre le crime organisé. Et moi, le plus gros risque dans mon métier, c'est d'avoir un trou ou de faire un bide. Bon, elle, c'est d'avoir un trou dans le bide, quoi. Ce que risque Arthur Chevalier, maximum, c'est une erreur de date. C'est de dire, Napoléon a remporté le vote de la Chambre basse lors de l'examen de la loi sur les décorations militaires le 13 septembre 1816, et tous ses copains du club Napoléon qui appellent « Eh, t'es con, c'était le 17 octobre 1817 !»« Oh, putain, ma carrière est foutue !» Les dangers sont pas les mêmes, quoi. Elle a du cran, cette dame. Alors, le PNACO a ouvert le mois dernier, et il s'occupe des affaires de narcotrafic, traite d'êtres humains, proxénétisme. Il doit être content de Jacques Lang. C'est vraiment le moment d'ouvrir cette merde. Comme si j'avais pas assez d'ennuis avec le parquet national financier. Et je... Quoi encore? Monsieur Lang, brigade de protection de l'environnement, apparemment vous auriez jeté du plastique dans les océans. Oh. Je me suis baigné, merde à la fin. Et ne me mettez pas les menottes. Ou alors est-ce qu'on peut prendre les miennes? Elles ont de la fourrure autour des bracelets.
Oh,
c'est moins douloureux, c'est plus élégant. Allez, rendez-vous avec Vanessa Perret à 8h30.
La patronne donc de la lutte contre le crime organisé, ce sera à 8h30. Pour l'heure, il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo, le journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faire justice soi-même, quitte à enfreindre la loi, c'est le choix qu'a fait ce septuagénaire près de Lyon en abattant son présumé cambrioleur et il bénéficie même du soutien de son maire. Les créateurs d'Assassin's Creed, face à une mobilisation massive, les salariés du géant français du jeu vidéo Ubisoft entament 3 jours de grève ce matin. Et puis 3 têtes d'affiche font leur entrée en lice aujourd'hui aux Jeux d'hiver de Milan Cortina avec une chance de médaille en biathlon.
Jusqu'où peut aller la légitime défense?
C'est toute la question ce matin après la mort d'un jeune de 19 ans abattu dans la nuit de dimanche à lundi par un septuagénaire qu'il soupçonnait de vouloir cambrioler sa maison. Les faits se sont produits à Genas dans la banlieue de Lyon où vous vous êtes rendu pour RMC Vincent Chevalier.
La scène se déroule vers 3h30 du matin, au bout d'une allée d'un quartier pavillonnaire. Le propriétaire entend des pas au-dessus de sa tête. Il se rapproche, arme à la main, et aperçoit un homme ouvrir une trappe. Le septuagénaire fait feu et blesse mortellement au thorax le cambrioleur présumé de 19 ans. Pour l'instant, on ne connaît pas le modèle de l'arme utilisée, ni les conditions de sa détention. Le maire de Genas, Daniel Valero, se dit complètement solidaire avec cet habitant.
Pourquoi à 3h du matin, on a des gens qui fracturent un toit, qui enlèvent d'études et qui passe chez les gens. La personne qui a reçu cette visite impromptue à 3h du matin, elle est peut-être en droit d'avoir peur et de se poser des questions. Et puis, si elle est menacée, de riposter. Qu'on arrête de se poser des questions par rapport à celui qui a été envahi chez lui, qu'on se pose des questions par rapport à celui qui envahit les autres.
Le propriétaire de la maison a été placé en garde à vue. De son côté, le parquet de Lyon a ouvert 2 enquêtes, l'une pour homicide volontaire, l'autre pour tentative de vol avec arme.
N'y croyez pas une seule seconde, Emmanuel Macron prévient que les menaces commerciales et les intimidations des États-Unis ne sont pas finies. Dans une interview publiée ce matin, notamment au journal Le Monde, le chef de l'État prône une préférence européenne pour les secteurs stratégiques. On y revient dans le journal de 8h. Il est 7h33 et c'est ce matin que Rachida Dati présente son programme pour la mairie de Paris. À Belfort, le Rassemblement National a le programme mais plus le candidat. Le parti a dû le désinvestir, comme celui de Carpentras la semaine dernière, on vous en parlait sur RMC. Une nouvelle brebis galeuse, épinglée en décembre dernier par nos confrères de Mediapart pour des messages homophobes, racistes et antisémites, Sonia Guibry.
Il y a notamment un message de 2022 sur fond de théorie du grand remplacement. Quentin Maculot s'insurge contre la proportion de prénoms à consonance étrangère parmi les naissances à Belfort et ajoute cette phrase antisémite. « Je n'ai pas compté Élie et Samuel d'origine hébraïque », écrit-il. Cette publication a été supprimée avant d'être exhumée en décembre. Après avoir un temps soutenu son candidat, le Rassemblement National vient donc de le débrancher, ce qui a donné lieu à une situation étrange samedi dernier lors de la réunion publique censé marquer le coup d'envoi de sa campagne. Quentin Maculot n'a pas fait de discours, pas de photo non plus avec l'invité d'honneur, le député et cadre du parti Jean-Philippe Tanguy. Preuve de l'embarras au RN qui ne cesse pourtant de répéter que le nettoyage a été fait.
Sonia Gobry du service politique d'RMC. Il est 7h34 et Ubisoft s'enfonce un peu plus dans la crise ce matin avec cette grève de 3 jours qui démarre pour dénoncer le plan d'économie adopté par le géant français du jeu vidéo qui prévoit notamment 200 départs volontaires pour tenter de redresser la barre d'un navire à la dérive. C'est ce que dénoncent les salariés que vous avez rencontrés, Cassandre Brault.
Depuis 4 ans, cette salariée a vu les conditions de travail se dégrader chez Ubisoft.
En termes d'atmosphère au travail, liée aux résultats financiers évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont partis, très peu sont remplacés. Donc ça augmente évidemment la charge de travail, il faut faire plus avec moins de moyens.
Plombé par plusieurs lancements de jeux en demi-teinte, Ubisoft s'est séparé de plus de 3000 employés dans ses différents studios à travers le monde. Des décisions qui inquiètent Alexandre Côte, membre du syndicat Solidaire Informatique.
On n'arrête pas de déclarer des accidents de travail parce qu'il y a des collègues qui font dans l'arme, qui font des malades ou ce genre de choses, et on est une direction qui ne bouge pas.
Avec en point d'orgue des revendications, le maintien du télétravail, Ubisoft veut réduire
pour renforcer la créativité des équipes.
Le salaire est faible dans le jeu vidéo, donc le télétravail était quelque chose qui permettait aux gens de tenir et d'avoir un équilibre vie pro, vie perso.
Bien loin des attentes d'Alexandre quand il a commencé à travailler dans l'entreprise il y a plus de 7 ans.
C'était un rêve d'enfant. Moi, j'ai commencé le jeu vidéo par Rayman, donc un rêve de travailler dans l'entreprise qui a édité ce jeu.
Et pour la première fois, des salariés d'Ubisoft à l'étranger vont eux aussi débrayer, comme par exemple en Italie.
7h35 sur RMC, nouvelle chance de médaille aujourd'hui aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Avec Éric Perrault en biathlon, ce sera à 13h30 et c'est aussi aujourd'hui qu'entre en lice l'une de nos meilleures chances tricolores, Perrine Laffont, qui se lance dans l'épreuve de ski de boss. 8 ans après son titre en Corée du Sud, la Française est plus que jamais déterminée à récidiver et ce malgré la blessure qui a fortement entaché sa préparation, Morgane Maury.
Et si c'était le Stade Toulousain qui avait sauvé la saison de Perrine Laffont, c'est dans le club de rugby qu'elle a soigné sa contusion osseuse survenue début décembre. Une saison riquiqui, une seule course de Coupe du Monde, une deuxième place avant un galop d'essai à Megève il y a quelques jours. Laffont est sortie du radar de ses adversaires.
C'est sûr qu'à mon avis, elles sont pas très contentes de me voir, elles préféraient quand j'étais pas là.
Laffont a coupé en 2024, usé mentalement et physiquement, avant de revenir en 2025 et de démolir la concurrence avec un 6e titre mondial. Elle a laissé mûrir l'envie de repartir.
Mais en fait, c'est quand même revenu au fur et à mesure des mois, en fait, où bah, tu te lèves le matin, il nous manque un petit peu cette adrénaline et ces objectifs qu'on se fixe tous les jours dans la vie d'un sportif de haut niveau.
Suivi au plus près par sa préparatrice mentale, spécialiste d'un travail à base d'huiles essentielles, l'ariégeoise pourra aussi compter sur sa famille, une bulle qu'elle défend essentielle à sa réussite.
Je suis jamais contente de ce que je fais, du coup je veux toujours plus et je vais aller chercher plus.
Seul Martin Fourcade a gagné 2 titres olympiques à 8 ans d'écart dans les JO d'hiver, un défi immense pour la pépite du ski de boss.
Et pour ne rien de ces jeux, c'est sur RMC que ça se passe, radio officielle des JO d'hiver de Milan Cortina.
Et puis le quintet.
13h55 sur l'hippodrome de Vincennes avec le prono comme chaque jour de la Dream Team des courses RMC. Aujourd'hui le favori c'est le numéro 3, Lesdi Magoda, l'outsider c'est le 11, la dame de cœur.
C'était le journal des 10 d'Anjan, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va partir tout de suite au 32-16. C'est Fernando qui nous a appelé de Seine-et-Marne. Vous êtes à Lagny-sur-Marne. Bonjour Fernando.
Bonjour Apolline.
Fernando, vous vouliez réagir à ce qui s'est passé à Génas, dans le sud de Lyon. Cet homme de 70 ans qui est en garde à vue pour avoir tué un homme qui, semble-t-il, tentait de le cambrioler. Comment vous réagissez-vous, Fernando?
Moi, je suis plutôt pour. On est dans une société où... D'un côté, on est bienveillant, faut pas faire de mal, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et de l'autre, on a des jeunes, on a des personnes qui deviennent de plus en plus violentes, de plus qui n'ont peur de rien et tout. Puis nous, on est là au milieu. On sait pas trop quoi
faire,
comment faire.
En fait,
vous
dites qu'à un moment, on ne peut pas ne pas réagir, c'est ça?
Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire... bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez que venez vous faire chez moi et puis se prendre une balle parce que lui il n'hésitera pas à nous la mettre. Et nous si on se défend on s'en prend une. Et qui c'est qui perd là-dedans? C'est que nous qui perdons.
Quand vous dites nous, c'est qui Fernando?
Ben ceux qui vont travailler tous les matins, qui payent leurs impôts, qui font ce qu'il faut dans la vie pour essayer de vivre convenablement. Et puis on a des petites racailles, des trucs qui viennent nous gâcher la vie tout le temps.
Vous trouvez ça dur, ça, au quotidien? Vous avez ce sentiment-là aujourd'hui d'être un peu les dindons de la farce, si je vous écoute, hein? Trop beau, trop beau, pardon de le dire, mais comme ça, mais c'est un peu ce que vous dites.
Mais c'est ça, exactement. On se circasse, on voit bien, vous le voyez tous les jours, on a une vie qui est assez difficile, on a du mal à faire ci, du mal à faire ça, et puis on a l'autre kéké qui arrive, qui vient là, qui en général est armé d'un couteau ou d'un flingue, et puis nous, il faut qu'on s'écrase.
J'entends parfaitement ce que vous dites, Fernando. Évidemment, tout cela est totalement interdit et puni, hein, puisque effectivement cet homme se retrouve en garde à vue. Toute la question, c'est habituellement la proportion de la légitime défense. C'est-à-dire, effectivement, mais j'entends, et vous êtes nombreux depuis ce matin à dire combien il est difficile d'accepter cette difficulté. Cet homme qui, d'ailleurs, il faut quand même le préciser, il est même soutenu par le maire de sa commune. Hein, donc, effectivement, il a beaucoup de soutien, et vous êtes nombreux depuis ce matin à lui apporter précisément son soutien. Votre soutien et à lui dire au fond que de votre côté vous auriez sans doute fait comme lui. Merci en tout cas Fernando d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Il est 7h40 et dans un instant on va venir sur ce procès qui s'ouvre tout à l'heure. Un tueur à gages de 14 ans, début donc ce matin d'un procès sur la violence que l'on découvre, un ado recruté sur les réseaux sociaux pour exécuter un contrat sur fond de narcotrafic. Fabrice Rézoli est avec nous, bonjour, spécialiste de la grande criminalité. Quelle réponse de la justice face aussi à cette hyperviolence? Je vous pose la question dans un instant, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story Canal 23. Il s'appelle Pépito, un ado de 14 ans recruté comme tueur à gages. Début ce matin donc à Paris du procès de ce jeune garçon de 14 ans qui avait abattu un chauffeur VTC à Marseille. L'adolescent devait à l'origine exécuter un contrat dans une affaire de trafic de drogue. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt. Est-ce que on a déjà le souvenir d'un meurtrier aussi jeune qui est exécuté comme ça de sang-froid un contrat?
Je ne crois pas. Hein. Dans le crime organisé, c'était un petit peu plus professionnel quand même avant en matière d'assassinat. On a toujours recruté des mineurs pour des tâches subalternes, mais là, pour l'assassinat, 14 ans, c'est très très jeune. Oui, ça serait une première. Notons hein, quand même que lui dit que le coup est parti tout seul. Donc, de sang-froid, on verra si le procès permet de déterminer les exacts faits qui ont eu lieu.
Ce qui est sûr, c'est que la balle, en tout cas, elle a été tirée dans la nuque.
Oui.
Du chauffeur VTC qui lui-même était en train de conduire. Il y a donc ce procès qui s'ouvre tout à l'heure. Et au fond, ce que l'on comprend aussi, c'est la manière dont le compte à rebours a été enclenché. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire. C'est qu'il y a du crime organisé avec la tension entre, en gros, deux bandes rivales. Il y a d'abord un jeune homme de 15 ans, qui est lui-même lacéré de coups de couteau, puis brûlé vif. Et c'est en représailles de la mort de ce jeune homme-là, qu'un homme lui-même appelé le H, qui est à ce moment-là en prison, commandite depuis sa prison ce meurtre qui est censé être un meurtre de représailles, et ensuite c'est la mauvaise cible qui est touchée. Au fond, on a l'impression d'une... Il n'y a rien qui va dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en prison, qui passe la commande, alors, qui trouve sur les réseaux sociaux Pépito. Expliquez-nous comment c'est possible d'en arriver là.
Alors, précisément, le procès qui va s'ouvrir à Paris, finalement, n'est pas le procès que de Pépito. C'est parce qu'il est mineur, qu'il est jugé à part, etc. Mais en réalité, la réponse de la justice est classique face à cette criminalité collective, puisque derrière ce meurtre, il y a quelqu'un en prison du crime organisé. Il est certes recruté sur Snapchat, mais il y a quelqu'un qui vient le chercher à la gare. Il y a quelqu'un d'autre qui l'amène à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui lui fournit une arme. On est précisément dans une dimension de crime organisé collectif selon la définition de la Convention de Palerme. Et les procès auront lieu pour les personnes qu'on a réussi déjà à mettre en lumière, dont la personne qui est en prison, qui a reconnu les faits, c'est même lui qui a...
Commandité. Et qui a même appelé la police. Voilà, racontez-nous ça, parce que c'est fou.
Le commanditaire en prison s'est auto-dénoncé et a donné le nom du jeune meurtrier, car il n'était pas satisfait de sa prestation, dans la mesure où il n'a pas tué
donc
la bonne cible.
Donc il le balance au flic, en quelque sorte.
Alors, si vous voulez
cette
dire...
histoire est folle. C'est depuis la prison que les policiers reçoivent un appel, et cet homme dit, je vous appelle depuis la prison, je vous dis qu'à telle adresse à Marseille, vous allez trouver un jeune homme, il sera sûrement ensanglanté parce qu'il vient de commettre un crime.
C'est bien la preuve, d'ailleurs, que finalement, parfois même, les gangsters font des hiérarchies entre les victimes. Je rappelle que le commanditaire a été très gêné qu'un honnête chauffeur de taxi soit assassiné en lieu et place de la cible. Je rappelle que la conférence de presse de la DZ Mafia qui se désolidarise de cet assassinat et de ce meurtre en disant... On n'a pas besoin d'embaucher des mineurs pour tuer des gens, parce que regardez, d'ailleurs, c'est pas efficace, ça tue, c'est pas le mot, mais ça tue des innocents. Car encore une fois, c'est une victime innocente.
C'est du délire. Et je précise évidemment, pour ceux qui nous écoutent à la radio, que vous dites ça avec une forme d'ironie que l'on lit sur votre visage, c'est-à-dire que vous êtes sidéré, au fond, de presque la manière dont la DZ Mafia voudrait se racheter une forme de virginité. Genre, nous, non, on touche pas les innocents.
Alors, peut-être que mon ironie serait plutôt du fait que, encore aujourd'hui, le concept de victime innocente n'est pas... vraiment rentrer dans les mentalités. Mais que dire d'autre ? Quand je vois des articles de presse qui disent victime collatérale, ben non, une victime collatérale, c'est d'une guerre juste dans nos représentations. Hein. C'est pas le mot collatéral qui compte. Mais si on se défend contre l'envahisseur, eh ben quand on tire, on peut tuer une mamie qui était dans sa maison. Là, c'est pas le cas. C'est des gens qui décident de s'entretuer. Et quand les victimes ne sont pas impliquées dans le trafic, on parle de victimes innocentes. C'est le cas Nassim. Et la DZ Mafia s'affranchit, dit « Ah non, c'est pas nous !» Et ils disent que c'est parce que ils n'ont pas besoin de jeunes tueurs. Alors, c'est pas vrai, ils recrutent des jeunes tueurs.
Ils recrutent des jeunes tueurs et des jeunes effectivement de plus en plus jeunes. Hier, j'interrogeais Laurent Nunez aussi sur la question de l'excuse de minorité. Oui. Est-ce qu'au fond, parce que, et vous le disiez, ce jeune Pépito, 14 ans au moment des faits, 15 ans aujourd'hui, va être poursuivi, va être jugé à partir de ce matin devant un tribunal pour enfants. Et c'est vrai que quand on entend cette expression « tribunal pour enfants », et quand on voit à l'inverse l'extrême gravité des faits, on se dit, et je posais la question hier au ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une fragilité dans ce concept même d'excuses de minorité ? Le ministre de l'Intérieur, écoutez sa réponse, je voudrais que vous puissiez y réagir, Laurent Nunez.
La part des mineurs dans la délinquance depuis 2016 ne cesse de baisser. C'est-à-dire, si on prend le total des mis en cause, quels que soient les items de la délinquance, le pourcentage de mineurs baisse. En revanche, ce qu'on constate, c'est que la violence s'invite dans les relations pour des motifs extrêmement futiles. On a de plus en plus d'usage d'armes blanches. Et oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société.
Il reconnaît cette montée de la violence. Et sur la question de l'excuse de minorité, il dit il faut réfléchir, peut-être même à la supprimer.
Je n'y crois pas du tout. En fait, la gravité des faits n'a pas de rapport avec le fait que la personne qui est jugée est un mineur, son cerveau n'était pas encore totalement développé, il n'a pas encore toute la conscience politique, citoyenne, tout ce que vous voulez de la gravité de ses actes. Et il y a la personnalité de ce jeune homme. Quand on lit l'article de Mediapart qui est sorti hier, qui a fait l'effort de reprendre toute l'enquête de l'action sociale qui montre toutes les défaillances.
C'est une catastrophe. C'est quand on regarde, effectivement, il était déscolarisé, il avait été de foyer en foyer, il avait déjà dû fuguer plusieurs fois. Il était lui-même acteur d'un trafic de stupes, mais lorsque l'on découvre également qu'au moment où il fait ça, il est seul. Pourquoi ? Parce que ses parents sont eux-mêmes incarcérés dans des dossiers liés à la drogue.
Par ailleurs, pardonnez-moi.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est à la fois victime et bourreau ?
Bien sûr qu'il est victime et bourreau, c'est une évidence. Mais la question, c'est que quand vous posez cette question, derrière, il y aurait sentiment d'impunité, parce que ce jeune homme serait jugé pour un tribunal par enfant. Il risque 20 ans. Alors moi, je vais vous dire, nous étions au procès au mois de janvier contre des criminels corses professionnels qui s'appellent de l'assassinat en bande organisée. Ils ont été condamnés en appel. Ils ont tout prévu, brûler la voiture, etc., etc. Certains ont pris 7 ans.
Ça vous choque, terriblement.
En fait, l'impunité, elle est là-bas. Pas contre Pépito, à mon sens.
Et ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, il n'est pas normal que dans le box des accusés aujourd'hui, il n'y ait pas aussi les autres responsables. C'est-à-dire qu'au fond, il y a certes la main qui tenait le revolver, mais au fond, il n'y aura même pas H, le fameux H, c'est-à-dire celui qui certes est déjà condamné puisqu'il est en prison pour d'autres faits, mais qui a été le commanditaire, celui qui a passé commande à Pépito. Il n'y a même pas eu de confrontation entre les deux hommes, comme l'avaient demandé certains pour que l'enquête puisse avancer.
À la question de savoir comment on fait des procès en France, y compris contre le crime organisé, où en général on circonscrit à maximum 10 personnes parce qu'on n'est pas capable de faire des procès plus grands, il y a des procès à la GIRS qui dorment depuis 12 ans parce qu'il y a trop d'accusés. Vous imaginez, c'est le évident. Système judiciaire français. Maintenant, là,
c'est quoi le GIRS ?
La juridiction interrégionale spécialisée qui est spécialisée contre les infractions de type crime organisé. La question ici, c'est peut-être que là, on touche au problème des mineurs. Comment on aurait fait pour mettre un gamin qui avait 14 ans au moment des faits avec un grand criminel qui est déjà en prison à vie ? Ça n'aurait pas eu beaucoup de sens pour la tenue des débats.
Quand vous dites qu'il y a une question qui relève aussi de la façon dont on est capable ou non d'instruire les dossiers, on sait qu'on s'était inspiré aussi de l'Italie, il y a ce fameux PNACO, le Parquet National Anti-Criminalité Organisée. Je reçois la patronne du PNACO tout à l'heure à 8h30, qui pour la première fois se retrouve effectivement être le parquet dans cette affaire. Oui. Qu'est-ce que ça change et est-ce que ça peut avoir des conséquences ?
Alors, sur l'affaire en question, il y aura peut-être une forte valeur symbolique sur le fait que le PNACO s'occupe ici de cet assassinat qui a choqué tout le monde, le fait que la victime soit une victime innocente, et le fait que l'assassin présumé ou le meurtrier présumé soit si jeune. En même temps, il aurait pu aussi se faire à Marseille ce procès, tant il répond aujourd'hui à une criminalité qui ressemble à ce qu'on connaît à Marseille depuis quelques années. Ce qui change pour le PNACO, c'est certainement la prise en charge de gros dossiers avec plusieurs personnes de profils différents dans le crime organisé, corrompus, blanchisseurs, trafiquants, logisticiens, et à mon avis la dimension internationale à voir, mais le PNACO sera plus fort pour aller négocier à Dubaï ou au Maroc la récupération, par exemple, de biens de criminels qu'ils ont placés dans ces pays-là.
Suivez l'argent, c'est aussi la volonté justement du PNACO. Oui. Et la patronne donc de ce nouveau parquet anti-crime organisé sera donc mon invitée, ne le manquez pas, ce sera à 8h30. Merci Fabrice Rizzoli, donc spécialiste de la grande criminalité et fondateur de l'association Crime Halt, de nous avoir éclairé ce matin. Il est 7h51, la voix de gauche vient de rentrer dans ce studio et c'est vous, Cécile Duflot, évidemment. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Elle a été supprimée par Emmanuel Macron en 2020. La taxe d'habitation, vous aimeriez qu'elle revienne ?
En tout cas, 40% des Français sont pour, mais à une condition, que ça se voit et que ce soit efficace.
Et vous nous le direz dans un instant. Il est 7h51. N'hésitez pas à réagir au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52 et avant de retrouver la voix de gauche d'RMC, d'abord le bonus Mathieu avec les festivals de l'été qui, ça y est, se garnissent.
Cette saison, certains préparent leurs vacances, d'autres leurs festivals. Alors les programmations, c'est top en ce moment. Vous avez peut-être connu Major Lazer. Ils viennent d'être annoncés au festival Solidays fin juin à Paris. Première fois en France depuis 2019, le festival de l'Hippodrome de Longchamp qui annonce aussi un autre retour, celui de Skip the Use. Il faudra aussi compter avec le rappeur Vald ou avec Elena. Chanteuse dont vous allez retenir le nom, passée par la Starac, et à d'autres noms qui s'ajoutent aux premiers artistes déjà annoncés. Aurel San, Gims, Big Flo et Oli notamment. Autre festival, autre retour. Ben Harper revient en France lui aussi. Alors là, ce sera sur la grande scène des Eurocaines de Belfort du 2 au 5 juillet. Et les organisateurs annoncent peut-être un nouveau nom dont ils attendent la confirmation à suivre.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
On est mardi, et comme tous les mardis, c'est la voix de gauche sur RMC. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, 40% des Français se disent favorables au retour de la taxe d'habitation. Cet impôt qui avait donc été supprimé en 2020 par Emmanuel Macron, et vous aussi, vous voudriez que ça revienne ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est
rare
que...
quand même qu'on demande un impôt de revenir.
Oui, parce que 4 Français sur 10 qui sont favorables. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Mais si on creuse cette étude qui a été faite par le Centre du Service Public et la Fondation Jean Jaurès, ça montre qu'en fait, les Français sont très attachés au service public et notamment au service public de proximité. Et que pour ça, ils sont prêts à payer. Et c'est pour ça que, en fait, ils ont compris, en fait. Et il y a un scoop dans cette étude, c'est que les Français sont intelligents.
Ah, c'est pas un scoop, effectivement, pour nous ici. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on dit toujours que les Français veulent payer moins d'impôts. Et là, finalement, ils seraient prêts à en payer plus.
Oui, ils seraient prêts à en payer plus, mais on voit aussi que ce qu'ils veulent, c'est davantage de services publics, et ils sont plus attachés d'ailleurs aux services publics locaux qu'aux services publics nationaux. Ils ont peut-être parce qu'ils les voient plus, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ils insistent sur des missions dans lesquelles l'État s'est désengagé. La santé et la sécurité.
La santé, la sécurité, alors des impôts, ok, mais pourquoi faire, non ?
Eh bien, justement, pour ces priorités-là, et la principale priorité qui est donnée par les Français dans cette étude, c'est la création, largement devant tous les autres, la création de centres de santé municipaux. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une très vieille politique. C'est une politique qui date de 1916. C'est le 18 avril 1916 qu'il y a eu une loi pour créer des dispensaires municipaux d'hygiène et de santé qui allaient donner des médicaments gratuitement et des soins gratuits. Donc, c'est vraiment une politique très ancienne qui visait à lutter notamment contre la tuberculose qui faisait des ravages, et cette politique est devenue nationale avec la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale.
Les Français sont donc en demande de services publics.
Oui, ils sont en demande de services publics et en particulier de services publics importants. Je reviens sur cette question de la santé, c'est vraiment très intéressant. Il y a 34 800 communes, 2000 centres de santé, et c'est ça qui est priorisé. Donc ça montre aussi en creux que l'État est défaillant, et d'ailleurs cette étude le montre aussi sur la question de la sécurité. Et donc c'est très important, et je pense qu'il faut que les candidats le regardent.
Sur la santé et sur la sécurité, c'est un signal fort qui est envoyé justement avant les municipales.
Et on est à un mois des élections municipales. Et on a un peu l'impression parfois Quand on écoute les analyses politiques, on compare les partis, quel parti va faire tel résultat, etc., etc. Alors qu'en fait, les Français et les électeurs, ils s'intéressent davantage à ce que vont faire concrètement, quelles politiques publiques vont être menées. Et on va revenir à la taxe d'habitation. Oui, on paye des impôts, et si on paye des impôts, on veut savoir à quoi ça sert. Et c'est pour ça qu'avec Oxfam, on a fait une étude sur les politiques publiques locales pour montrer en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte pour la résilience des territoires et de politiques féministes que font les collectivités. C'est accessible en ligne sur le site Oxfam France. Et ça dit aussi une chose, c'est que les électeurs vont bien s'intéresser au programme des candidats. Donc le 15 et le 26 mars, votez et avant, lisez les programmes, c'est ça qui compte.
Le 15 et le 26 mars, les élections municipales, votez. Merci Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC demain, 7h50, ce sera la voix de droite. Dans un instant, le journal de 8h et à la une, c'est informations. Emmanuel Macron qui, à l'instant, donne une interview à nos confrères du journal Le Monde. Il dit que la guerre commerciale avec les États-Unis n'est pas terminée. On vous explique tout dès le début de ce journal. Météo forte pluie à peu près partout, mais en particulier sur le sud-ouest. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel de Chypre. Emmanuel, la France n'a jamais autant importé d'emmental.
Ben oui, c'est notre fromage préféré, c'est le symbole de notre perte de compétitivité agricole.
De l'emmental étranger ?
Ben évidemment.
Allez, à tout de suite.
L'emmental n'est pas que français.
Oui, je le sais bien. À tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.